Dominique Louis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur d'Assystem. On va parler avec vous de la transition énergétique. Vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle 2050, la France sans carbone. C'est vrai qu'on est dans cette période où on réfléchit aux solutions du futur. On comprend avec un certain nombre d'événements climatiques que ce sujet est devenu aujourd'hui prioritaire, même si il y a encore beaucoup d'États qui reportent ça. Qu'est-ce que vous avez mis en avant? J'ai remarqué que pour vous, le nucléaire devait encore avoir sa place dans les prochaines années, même si on veut ce type de résultat.
Alors, Assystem est né dans le nucléaire dans les années, fin des années 60. C'est un secteur qu'on n'a jamais quitté. Donc, je dirais, sans être présomptueux, que c'est un sujet qu'on connaît bien. Et on a été assez surpris de lire un certain nombre de choses concernant le nucléaire et surtout concernant le futur du nucléaire. Il faut se souvenir que le nucléaire en France, un des critères essentiels, c'était l'indépendance énergétique. C'était après le premier choc pétrolier. Aujourd'hui, le nucléaire est aussi une réponse au dérèglement climatique. Donc, c'est un argument massu pour continuer le nucléaire. Enfin, parce que je suis pas sourd, on n'est pas sourd aux principaux reproches qui sont faits au nucléaire, qui est en matière de sécurité, de sûreté, de problématiques, de déchets. J'allais dire qu'en 2018, on peut affirmer qu'en France, avec 58 réacteurs qui fonctionnent depuis les années 80, il n'y a jamais eu de sujet de sûreté. Et que la problématique de la sûreté, c'est la maîtrise industrielle que l'on a sur ces sujets-là. Et que la France a fait la démonstration de sa maîtrise de la filière nucléaire.
On a eu quand même, effectivement, du côté de l'autorité de sûreté nucléaire, son président qui a dit « c'est pas impossible en France », sachant que ça a eu lieu, effectivement, on le rappelle, en Ukraine et puis au Japon. Et donc, et avec un parc comme ça, ça serait effectivement forcément important.
Alors, le fait de dire « c'est pas impossible en France », c'est un principe de sûreté fondamentale. L'idée de dire « ça nous arrivera jamais », là, on est en danger. Et c'est vrai qu'au début, les gens étaient tellement fiers des machines qu'ils avaient conçues, de toutes les sécurités qu'ils avaient prises, on avait cette vision-là. Donc, il a été, la doctrine a évolué. Un accident est possible, mais derrière, comment est-ce qu'on diminue ce risque d'accident? Et si finalement un accident arrivait, comment est-ce qu'on le maîtriserait? Ça ne veut pas dire que les gens du nucléaire sont persuadés qu'il y aura un accident. Ça veut dire qu'ils se mettent dans l'état d'esprit, vous savez, du transport aérien. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun crash d'avion. Enfin, il y a même eu, je crois, une année où il n'y a eu aucun mort en vol commercial parce que le moindre défaut sur un avion fait qu'il ne décolle pas, il réparait, etc. Et donc, l'autorité de sûreté nucléaire amène cette garantie de contre-pouvoir vis-à-vis des autorisations à donner pour exploiter, pour contrôler. Mais ce n'est pas parce que l'autorité de sûreté nucléaire va dire « à tel endroit, j'ai constaté tel problème technique, je veux que ce soit réglé », que ça veut dire que ça se passe mal. Au contraire, ça veut dire que rien n'est mis sous le tapis et qu'aujourd'hui, il y a la transparence la plus complète possible. Et que le problème de la sûreté nucléaire, c'est un problème de gouvernance. Les accidents, en particulier Fukushima au Japon, l'a montré. Il est important d'avoir une autorité de sûreté nucléaire compétente, ayant les moyens de travailler et indépendante. Ce n'est pas un problème de technologie. Vous regardez Fukushima, il n'y a pas eu de problème avec la technologie nucléaire. Il y a eu un problème de digue qui n'était pas assez haute et le sujet était connu. Il y avait un certain nombre d'adaptations technologiques sur les réacteurs qu'avaient préconisé les constructeurs américains qui n'ont pas été faits. Et en plus, il y a eu beaucoup à dire, on le sait aujourd'hui, sur la façon dont les Japonais ont géré la crise. Il faut rappeler quand même qu'à Fukushima, il y a 25 000 morts. C'est 25 000 morts du tsunami. Il n'y a pas eu de mort dans les centrales nucléaires.
Alors, quand on revient au parc français, on est force de constater qu'il y a, effectivement, vous parliez d'indépendance, mais que du coup, le poids du nucléaire est important et qu'à chaque fois qu'on débat de ces sujets-là, c'est vrai que c'est soit polémique, soit difficile à les traiter parce que le poids est tellement important qu'on se dit, si on veut diminuer, regardez par exemple pour Fessenheim, ça va prendre pas une éternité, ça va peut-être que la centrale sera fermée, mais c'est très compliqué. Il y en a une en Bretagne qui n'est pas encore complètement démantelée. Donc on se dit, la suite ou un peu moins de nucléaire, c'est compliqué.
Alors, il faut se poser la question, pourquoi moins de nucléaire? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Et qu'est-ce qu'on va faire de mieux que le nucléaire? La vraie question, c'est celle-là. On arrête le nucléaire. De toute façon, on l'arrêtera un jour, le nucléaire. Le problème, on le remplace par quoi? Et c'est là aujourd'hui, lorsque vous regardez à la fois la COP21, la COP21 a eu un très grand mérite, c'est qu'elle a diffusé cette idée que la planète était en danger, ça diffuse doucement, mais c'est quelque chose, il y a une prise de conscience. Mais la COP21 a montré aussi ses limites, en particulier, et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que malgré la COP21, les émissions de CO2 ne font qu'augmenter partout sur la planète. Une des raisons d'ailleurs, c'est que la COP21 a été un compromis avec de nombreux États et n'a pas adressé la vraie problématique, qui n'est pas les émissions domestiques de CO2, qui est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Si vous me donnez 30 secondes oui. pour bien expliquer ce qu'est l'empreinte carbone. Lorsque vous regardez, prenons l'exemple de la France, en termes d'émissions de CO2, grâce à nos centrales nucléaires, on est parmi les pays les plus vertueux qui mettent le moins de CO2 par habitant. Cependant, la France est un pays qui importe énormément, et donc dans les produits que nous consommons, ces produits, là où ils ont été fabriqués, il y a eu des émissions de CO2. Et l'empreinte carbone de la France, c'est l'addition de ce qu'on émet de notre territoire, mais de tout ce CO2 qui a été émis. Et là, malheureusement, la COP21 n'a pas pris ça en compte, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez une activité industrielle qui rejette du CO2, vous la délocalisez en Chine, vous améliorez votre bilan CO2 vis-à-vis de la COP21. La conséquence, c'est quoi ? Ben, c'est que vous importez du chômage, parce que quand vous envoyez une industrie en Chine, c'est des emplois que vous supprimez en France. Et pour le déficit commercial de la France, c'est pas bon. Donc la vraie logique, c'est effectivement la logique de la taxe carbone, qui est de taxer ces produits qui sont importés essentiellement de Chine. Alors il ne s'agit pas de stigmatiser la Chine, mais on sait que c'est quand même en Chine que ça se passe. Mais ce qu'il faudrait, c'est que cette taxe carbone serve à réindustrialiser la France en utilisant des techniques, des technologies plus modernes, des process plus modernes, qui rejettent moins de CO2.
Donc l'enjeu, il est là. Alors, si on vous suit sur le nucléaire, on peut se dire aussi, oui, mais regardez les coûts de Flamanville, cette EPR, donc nucléaire de nouvelle génération, quand on voit le devis initial et le devis final qu'on n'a pas encore.
Alors, le problème du coût, j'allais dire, il faut regarder ce que coûte l'investissement et il faut regarder, quand on l'arrêtera, combien il aura rapporté. C'est ça la réalité des choses. Vous savez que les centrales actuelles avaient été construites pour 40 ans et qu'aujourd'hui, dans tous les pays où il y a cette technologie de centrale, parce que tout le monde a à peu près ce qu'on appelle la deuxième génération, les Américains sont passés à 60 ans et parlent même de 80 ans. Donc il est évident que quand vous avez investi pour 40 ans, vous faites tourner votre investissement 80 ans, ça diminue vos coûts. L'EPR, j'allais dire, ce sera probablement la même chose en mieux. Quand vous voyez les contraintes qui ont été prises en compte, en particulier les contraintes de Fukushima, les risques de fonte de cœur, la problématique de la piscine, conviction personnelle, diagnostic de Dominique Louis, un EPR tournera 100 ans. Et là, se pose le problème de la vieille centrale. Il n'y a pas de vieille centrale. Une centrale nucléaire, c'est comme un avion. C'est-à-dire que l'avion, dès lors qu'il n'y a pas de fissure dans les ailes, dans le fuselage, vous changez tout. Une centrale nucléaire, vous changez tout, sauf la cuve elle-même et le génie civil. Tant que la cuve n'a pas de faiblesse, n'a pas de fissure, et ça, bien sûr, c'est contrôlé, chaque fois que les centrales sont arrêtées, le béton n'en a pas, vous remplacez tous les autres équipements, et j'allais dire, prenons l'exemple de Fessenheim, parce que c'est typiquement là où on se trompe le plus, finalement, Fessenheim est une des centrales les plus sûres, et les opérateurs de Fessenheim ont démontré qu'ils étaient extrêmement compétents. Donc l'idée, là, il faut arrêter Fessenheim parce que la centrale est vieille, ce n'est pas le bon argument. Il faut l'arrêter, mais sûrement pas pour cet argument-là.
Oui, il y avait un argument sur les failles géologiques, voilà, sur d'autres éléments.
Oui, alors là-dessus, ce que je peux vous dire, c'est que les calculs antisismiques qui ont été faits à l'époque, il n'y a pas de raison de les remettre en cause. Et revenons à Fukushima. Les réacteurs avaient été calculés antisismiques. Le tremblement de terre fait qu'il ne s'est rien passé. C'est le tsunami. Donc, les niveaux de sécurité d'ores et déjà qui avaient été pris à cette époque-là font qu'aujourd'hui, là-dessus, c'est un... J'allais dire, ce n'est pas un mauvais procès. On peut comprendre l'angoisse des gens, si vous voulez. Mais si on regarde en face le risque systémique du CO2, parce que c'est quoi l'enjeu ? Restons sur Fukushima. C'est un accident récent, c'est un accident qui a frappé les esprits. Aujourd'hui, le savoir-faire des ingénieurs, des techniciens, fait que Fukushima, on s'est réparé. où c'est réparé, les centrales sont perdues, mais aujourd'hui, voilà, les Japonais sont en train d'entamer le nucléaire. Les millions et les millions de tonnes de CO2 qu'on a lâchées dans l'atmosphère, on ne sait pas comment les récupérer. On ne sait pas ce qui va devenir. Donc, on est bien dans une logique de choix. Je ne suis pas en train de dire que le nucléaire est une solution parfaite, c'est de dire si le risque CO2 est avéré, si on veut rester dans la conception qu'on a de notre société, c'est-à-dire un progrès qui finalement est corrélé à la consommation d'énergie. On voit bien à l'échelle de la planète, si vous prenez sur 1000 ans, le progrès humain, sa traduction, c'est qu'on consomme de plus en plus d'énergie. Si vous prenez le fait qu'en 2050, on aura 10 milliards d'habitants, vous voyez bien qu'il faut trouver une énergie abondante et pas chère. Alors, j'anticipe juste sur votre question suivante, les renouvelables.
Oui, parce que de l'autre côté, on a l'impression qu'on n'a rien fait ou qu'on n'avance pas.
Alors,
vous voyez, regardez sur l'éolien, dès qu'il y a une nouvelle éolienne, il y a un recours,
Les renouvelables, ce qu'on appelle les renouvelables, d'ailleurs, on mélange un peu des choux et des carottes, parce qu'on met l'hydraulique dans le renouvelable, et le renouvelable, l'hydraulique, c'est une solution très bonne. Il n'y a qu'un inconvénient, c'est que trouver des sites équipés, aujourd'hui en France, il y en a probablement pratiquement plus, et même à l'échelle de la planète, ce n'est pas si simple que ça. Les deux autres énergies qu'on appelle renouvelables, nous qu'on appelle intermittentes, le solaire et l'éolien. J'allais dire, le solaire, en France, en Allemagne, il y a des statistiques aujourd'hui qui sont connues, la période d'ensoleillement moyen par an, c'est 1500 heures. Il faut comprendre, si on va faire un calcul très simple, 365 jours, 24 heures par jour, ça fait 8700 heures. Une centrale à charbon, une centrale nucléaire, une centrale à gaz, elle va tourner à peu près 7000 heures, 6500 à 7000 heures par an avec de la maintenance. Donc, si vous avez un investissement qui ne tourne que 1500 heures, pour qu'il produise autant d'électricité qu'un investissement qui, lui, tourne 6000 heures, il faut le faire 4 fois plus puissant, donc 4 fois plus cher. Donc, contrairement, et en plus, comme vous ne maîtrisez pas le soleil, vous avez statistiquement répondu au problème quantitatif, mais au moment où l'électricité est produite, vous n'êtes pas sûr que vous en ayez besoin. L'éolien, sur
l'éolien...
Un sujet
de stockage aussi.
Malheureusement, il n'y a pas de solution de stockage. Et si on regarde l'idée des batteries, est sûrement une fausse idée. On pourra peut-être parler 30 secondes de solutions autour de l'hydrogène, d'autres... J'ai même vu une expérimentation où on chauffe des rochers, vous voyez. On va stocker de la chaleur dans des rochers pour la récupérer. Donc malheureusement, il n'y a pas de solution de stockage. Et quand on regarde les batteries type Tesla, on voudrait stocker 2 jours de consommation d'électricité en France. Il faudrait 12 millions de tonnes de batteries type Tesla. Et 12 millions de tonnes de batteries Tesla, c'est 360 000 tonnes de lithium. Et je crois que la production annuelle de lithium dans le monde est de moins de 50 000 tonnes. Donc, c'est bien l'idée du stockage. Mais malheureusement, ça ne correspond à aucune réalité et à aucun principe aujourd'hui de labos qui permettent de dire dans 20 ans, dans 30 ans, on sera stocké. Et la problématique de l'énergie, il faut raisonner
à long terme,
sur le siècle. Donc si on revient à l'éolien, si j'ai à choisir entre le solaire et l'éolien, bien évidemment, il faut choisir le solaire. En deux mots, l'éolien aujourd'hui utilise des technologies qui sont totalement matures. Finalement, vous avez des pales, une hélice qui fait tourner, qui entraîne un alternateur, etc. Ce sont des technologies qui sont matures. On n'attend pas de révolution. On peut peut-être, sûrement d'ailleurs, parce que les ingénieurs savent faire ça, améliorer peut-être le rendement de 10%. On va les faire de plus en plus hautes, de plus en plus visibles, de plus en plus gênantes pour le paysage. Le solaire, c'est un autre sujet. Le solaire, on est plutôt dans l'industrie de l'électronique. Donc, il est évident que la technologie des panneaux solaires va s'améliorer considérablement dans les 30 ans à venir. Je ne dis pas que ça va être la loi de Moore, mais quand même. Donc, s'il faut choisir une énergie renouvelable intermittente, c'est clairement le choix du solaire. Je pense que l'éolien n'a pas d'avenir. Ce n'est pas dire qu'à la marge, on ne l'utilisera pas, mais l'éolien n'a pas d'avenir.
Si on termine sur ce mix énergétique tel que vous le voyez, donc on a compris que sur la partie nucléaire, il y avait encore ce poids important. Qu'est-ce qu'on va mettre autour ?
Alors, nous, notre vision pour la France, c'est 50% à l'horizon 2050, 50% de nucléaire et 50% de solaire. Et les 50% de solaire, c'est un vrai challenge, il va falloir les atteindre. Si on regarde à l'échelle de la planète, malheureusement à l'échelle de la planète, c'est encore le charbon qui est la principale source d'énergie pour produire l'électricité. Donc, à l'échelle de la planète, il est probable que l'évolution va être de remplacer le charbon par du gaz. regardez, on a un exemple à notre porte qui est quand même qui devrait nous parler, c'est l'exemple de l'Allemagne.
Oui.
L'Allemagne a arrêté précipitamment ses centrales nucléaires, a dépensé, je crois, 550 milliards d'euros pour faire du renouvelable, et ils n'y arrivent pas. L'électricité est deux fois plus chère qu'en France, ils n'y arrivent pas, et donc ils font tourner des centrales à charbon. Donc c'est un problème d'échelle de temps. Un jour, on sortira du nucléaire. Ma conviction, c'est que au-delà de 2050, on peut peut-être espérer dans l'hydrogène, sur deux axes, l'hydrogène comme carburant dans la mobilité, mais également dans la fusion, puisque la fusion de l'hydrogène libère encore beaucoup plus d'énergie que de casser des atomes d'uranium, avec et sans avoir les inconvénients des déchets. Mais quand vous regardez le projet ITER actuellement, qui est un projet expérimental qui regroupe quasiment tous les grands pays développés de la planète, on voit que les retombées d'ITER, qui ont le but est de démontrer la faisabilité de la fusion de façon industrielle, on est largement au-delà de 2050.
Voilà, donc la France sans carbone, ça ne va pas être un long chemin tranquille.
Ça ne sera pas un chemin bien tranquille et ce sera un compromis.
Ça sera le mot de la fin. Merci Dominique Louis d'avoir été avec nous.